au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Tiens, aujourd'hui, c'est Louis qui est en studio. Pourquoi quatre fois bonjour?
Ça doit faire quatre semaines que j'étais absent et je suis de retour.
Et voilà, tout est dans tout, comme dirait l'autre. Ben oui, aujourd'hui, c'est le 13 avril. 13 avril et... Je vais vous dire, hein, ça fait du bien qu'on parte en congé une semaine. On n'était pas là la semaine dernière. Et je l'ai dit, hein, quand je fais la météo, il fait toujours plus beau. Bien là, on va monter cette semaine. Ça a l'air qu'on va se rendre jusqu'à 20 degrés. Il y a de la pluie, si on n'y peut rien. Mais ça, les gens qui reviennent de Paris nous amènent de la pluie, j'imagine. Mm-hmm. Bon, on va arrêter de se plaindre. Oui, de la météo aujourd'hui. Alors, pas mal partout dans l'est du pays. Ça va être une semaine avec, en fait, aujourd'hui et toute la semaine, quatre systèmes météorologiques de la pluie, mais les températures augmentent. Alors, on pourrait même atteindre aujourd'hui 15 degrés dans le sud du Québec, 14 degrés dans l'est du Québec. En Ontario, imaginez-vous qu'on parle de 20 degrés, hein, peut-être à London, en Ontario, et à Toronto. Province atlantique, même chose, hein, c'est de la pluie, c'est des systèmes dépressionnaires, mais on est autour de 4 à 9 degrés. Et dans les provinces des prairies, là aussi, hein, c'est un mélange de soleil et de nuages. Les températures sont nettement au-dessus de zéro. Alors, ça s'en vient. Hein? C'est pas encore fait. Non, mais ça s'en vient. Et c'est toujours un peu gris, sur les côtes ouest, c'est normal, mais là aussi, il fait plus chaud. Alors, une émission bien chargée aujourd'hui. Je vais dire bonjour tout de suite à Louis de Bernis. Bon retour!
Merci, bonjour Denis Martin.
Alors, on fait de l'insolite aujourd'hui?
Oui, de l'insolite animalière. Je vous parlerai d'abord de l'animal le plus vieux au monde, encore vivant, une tortue qui s'appelle Jonathan et qui est au cœur...
Je pensais que c'était un goéla, ça, Jonathan, Livingston. OK, je sais.
Et cette tortue au cœur d'une affaire étrange, une arnaque aux crypto-monnaies, je vous expliquerai, c'est en lien avec le 1er avril, ça donne lieu à des histoires étonnantes.
Ouais, rien à faire de courir, il faut partir à point, ouais, allons-y.
Exactement. Et au Cambodge, un autre animal, un rat, une statue érigée en hommage à un rat détecteur de mines. On sait que c'est un pays qui est en proie à ce fléau-là. Eh bien, il y a des héros à quatre pattes et à poil dans ce pays.
Je me suis permis de citer Jean de La Fontaine, hein, parce que en 1695, c'était l'anniversaire de sa mort. Mais on va aller voir une belle vivante, Danielle Rioux.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Louis, bon retour à la maison, j'allais dire, quasiment. Aujourd'hui, écoutez, je vous entretiens sur un fait. Puis c'est un fait qu'on remarque tous, hein. On prend plus le téléphone pour parler comme tel. Non. On improvise ou encore improviser une conversation dans la rue parce que dans sciences humaines, on nous dit que les gens ne se parlent plus. Et le titre continue « À moins qu'il ne s'écoute plus ». Alors, c'est le sujet ce matin.
Bon, alors, c'est intéressant. Nous avons aussi des entrevues aujourd'hui. On va parler du défi Karine Paquin, avec Karine Paquin, évidemment. Nous allons aussi parler de la Fondation Dynastie et de son gala. C'était le dernier, la dernière remise de prix, 10e anniversaire. Puis on va nous expliquer pourquoi, parce que je pense que reconnaître le talent afro-descendant, oui, mais je pense qu'ils se sont dit que maintenant, on voudrait que ce soit plus dans le « tout le monde ensemble ». On verra bien comment est-ce qu'on va nous expliquer ça. On va aussi parler du mois de l'autisme. Vous connaissez Benjamin Graton, hein, grande vedette de Stat, et qui sera avec nous aujourd'hui avec son papa, Mathieu Graton. Puis, on a une nouvelle première ministre désignée, et j'ai été épaté par le karaoké ce week-end qui a souligné son accession au pouvoir, son élection. Et je me suis dit qu'on pourrait peut-être, nous aussi, faire un petit karaoké ensemble. Alors, on va commencer. Je vous lance. « Tout l'or des hommes ne vaut plus rien si tu es loin de moi. Tout l'amour du monde ne me fait rien. Alors, surtout, ne change pas. » Hey, on est pas mal bon, mais je pense que on va pas changer. On va rester animateur et chroniqueur, chroniqueuse de radio et même régisseur. Puis on va laisser à Céline Dion le soin de chanter cette chanson.
J'ai déposé mes armes à l'entrée de ton cœur sans combat et j'ai suivi les charmes. Lentement, en douceur, quelque part là-bas, au milieu de tes rêves, au creux de ton sommeil, dans tes nuits, un jour nouveau se lève. à nul autre pareil. Et tu sais depuis, tout l'or des hommes.
Ah oui, elle l'a mieux chanté que nous et certainement mieux que les députés caquistes ce week-end. Mais justement, puisque je parle de la CAQ dans Le Devoir et dans à peu près tous les journaux ce matin, Christine Fréchette succède officiellement à François Legault à la tête de la Coalition Avenir Québec, élue dimanche, donc hier, à Drummondville, avec près de 58 % des voix devant Bernard Drainville. Lui chante très bien aussi les chansons des Cowboys fringants, semble-t-il. Mais elle devient la deuxième femme de l'histoire à diriger le Québec. La nouvelle première ministre désignée promet de réduire la pression financière sur les familles et de défendre l'économie face aux marchés mondiaux, notamment envers nos partenaires états-uniens. Mme Fréchette dispose de 6 mois, je dirais plus de 2 mois, parce qu'elle est quand même les congés, puis après, ça va être la campagne électorale, puisque les élections ont lieu le 5 octobre. Alors, elle aura probablement 2 mois là, pour redresser la barre avant les élections générales qui auront lieu donc le 5 octobre. Le Québec a connu sa première femme première ministre, c'est en 2012, vous vous rappelez, avec l'élection de Pauline Marois au gouvernement du Parti québécois. Dans la presse plus, un tournant historique en Europe. Après 16 ans de pouvoir, Viktor Orban concède sa défaite. Le conservateur pro-européen Péter Magyar a remporté les élections législatives en Hongrie avec une super majorité des 2/3. On dit ça parce qu'il va pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses sans avoir beaucoup d'obstacles. Notamment, il veut ramener beaucoup d'institutions démocratiques qui avaient été mises de côté ou éliminées par son prédécesseur, Viktor Orban. Alors, porté par une participation record, le parti TISA a balayé le système nationaliste en place, provoquant une onde de choc jusqu'à Washington, chez les alliés, donc, états-uniens d'Orban. À Budapest, le nouveau dirigeant promet de rétablir la démocratie et de replacer le pays au cœur de l'Union européenne. Dans la presse, c'est le jour de vote dans 3 circonscriptions fédérales au pays aujourd'hui, dont celle de Terrebonne au Québec. Les électeurs pourraient permettre au gouvernement de Mark Carney d'atteindre la majorité parlementaire. C'est un fait inédit dans l'histoire du Canada, sans la tenue, évidemment, d'élections générales. À Terrebonne, la lutte s'annonce particulièrement serrée entre la libérale Tatiana Auguste et la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagnés, alors que le scrutin initial de 2025 avait été annulé par la Cour suprême. Les 2 autres sièges en jeu se situent en Ontario, dans les bastions libéraux de Scarborough et de University Rosedale. Et la tension monte d'un cran, c'est ce qu'on lit dans Le Devoir ce matin, donc tension qui monte d'un cran dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump a annoncé hier que la marée états-unienne entamera un blocus complet de ce corridor maritime stratégique dès ce matin. Cette décision survient après l'échec des négociations entre le vice-président J.D. Vance et les représentants iraniens au Pakistan. Bien que les experts s'interrogent sur l'efficacité réelle de cette mesure, Washington cherche à priver l'Iran de son principal levier économique et à forcer Téhéran à revenir à la table des négociations. De leur côté, les gardiens de la Révolution menacent de transformer la zone en un tourbillon mortel. Quelques paractualités aussi aujourd'hui. Journal de Montréal, 11 avril, à 25 ans, Loïc Beaulieu de Lanaudière, devenu tétraplégique après un accident de moto en 2023, transforme son quotidien grâce aux réseaux sociaux. Sous le pseudonyme de « l'handicapable », il cumule déjà des centaines de milliers de vues sur TikTok. Loin d'être une simple distraction contre l'ennui, ces vidéos brisent les tabous sur la réalité du handicap, de la physio jusqu'à l'intimité. Après avoir traversé des épreuves personnelles difficiles, Loïc utilise sa notoriété pour sensibiliser les jeunes et redonner espoir à de nombreuses familles. Le compte TikTok de Loïc Beaulieu a atteint plus de 11 000 abonnés et cumule des centaines de milliers de visionnements en un mois d'activité. Il faut dire que sa première vidéo qu'on peut voir, qui a été épinglée là, sur son compte, c'est lui qui se lève de son fauteuil roulant et qui tombe. C'est assez surprenant comme vidéo, puis oui, assez intéressant aussi comme personnage. Peut-être qu'on réussira à l'interviewer ici à l'émission. Alors, dans le Journal de Montréal, hier, dans une lettre d'opinion, Isabelle Perrin, c'est une mère d'un adulte vivant avec un handicap, dénonce ce qu'elle appelle une érosion organisée des services au Québec. En cause, de nouvelles directives ministérielles qui plafonnent la durée des stages et des plateaux de travail. Sous prétexte de favoriser l'emploi rémunéré, ces mesures risquent d'exclure 97 % des participants qui ne pourront jamais atteindre les standards de productivité du marché. Pour ces citoyens québécois dont la valeur ne se mesure pas en rentabilité, le travail est un lien social avant d'être un salaire. En normalisant tout, on finit par ne plus laisser de place à la différence. Selon les estimations citées par Isabelle Perrin, seulement de 3 à 5 des participants au programme socio-professionnel actuel réussiront à intégrer le marché du travail régulier.
T'es comme une fleur dans une, t'es comme une fleur dans une, t'es comme une fleur dans une craque d'asphalte. Tu te lèves vers le soleil, même les étoiles, tu te merveilles, puis tu es toi face. Juste des regards pleins d'indifférence. T'as jamais cessé d'y croire, cessé de rêver. Même quand le vent voulait te faire tomber. Soudain il a paru une fleur improbable qui a pris racine dans un climat de marbre. Ça ne l'a pas empêché d'ouvrir son cœur de montrer au grand jour ses couleurs. T'es comme une fleur dans une, t'es comme une fleur dans une, t'es comme une fleur dans une craque d'asphalte. T'es comme une fleur dans une, t'es comme une fleur dans une, t'es comme une fleur dans une craque d'asphalte. Tu te lèves vers le soleil, même les étoiles, tu t'émerveilles, et puis tu es toi face. T'es comme une fleur dans une, t'es comme une fleur. Quand tout le monde y pensait que t'étais pas capable, t'es la preuve que peut éclore la beauté dans un décor désenchanté.
T'es comme une fleur dans une, t'es comme une fleur dans une, t'es comme une fleur dans une. Bruno Rodeo. T'es comme une fleur dans une craque d'asphalte.
J'ai l'impression qu'on revisite une chanson du défunt Jean-Pierre Ferland, Fleur de Macadam.
Ah, ben oui.
Ah, quelque part là-dedans. J'ai beaucoup aimé quand j'ai écouté la chanson. Je le dis, là, je ne suis pas amateur de musique country, mais ça m'a tellement fait rire d'écouter. Ça fait du bien d'entendre quelque chose de comique. Hein?
Ben, c'est joyeux, surtout un matin de nuages et pluvieux.
C'est un peu gris. Oui, c'est tristounet ce matin. Hein?
Ouais, oui, ouais, mais en tout temps, c'est agréable. Puis en tout temps, c'est agréable de pouvoir parler à quelqu'un.
Qui nous écoute.
Ben oui, qui nous écoute, mais là, on est derrière nos écrans de plus en plus. Oui. Hein? Fait que donc, les réseaux sociaux nous accaparent, notre cellulaire nous accapare.
Écoute,
donc,
Daniel, je ne sais pas si tu prends le métro quand tu viens à Montréal. Moi, ça me fait rigoler.
Oui.
Je vais vous dire, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Alors, je ne peux pas être sur mon téléphone en même temps que je marche. C'est un risque pour l'humanité, disons, et pour moi, parce que je rentre dans les murs. Mais je vois ces gens qui fonctionnent comme des robots, qui ne regardent pas où ils vont. Et je me dis, mais non, c'est parce que là, tu es tellement préoccupé à regarder quelqu'un qui est à l'autre bout du monde que tu ne te rends pas compte qu'il y a des gens autour de toi.
Absolument. Puis je connais quelqu'un qui s'amuse à prendre des photos des gens à leur insu parce que de façon ou d'autre, ils ne me voient pas.
Ouais.
Dans le métro, pendant qu'ils regardent leur truc, elle dit, ils ne s'aperçoivent même pas que je prends des photos d'eux. Elle dit, pour dire, hein.
Ah, ouais.
Elle dit, je me suis amusée à faire ça à un moment donné. Elle dit, pour juste voir si j'attirais l'attention, mais pas du tout.
Bon.
Mais c'est quelque chose. C'est un article paru dans Sciences humaines, l'édition décembre 25, janvier 26. Et puis, ben, je me disais, ben, pourquoi pas? Parce que je m'aperçois qu'on appelle peu nos gens, on s'utilise peu le téléphone, hein, et puis on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et c'est justement pourquoi j'ai choisi ce texte-là, parce que je suis sensible à ça. Alors, par exemple, vous êtes dans l'autobus ou dans le métro, puis vous voyez une personne un peu plus âgée qui tente de faire une conversation avec vous, et puis on se dit, hey, franchement, c'est donc mignon, mais en quelque part... Mais c'est que cette personne-là, qui est plus âgée, elle n'a pas connu ça, ces histoires de téléphone-là, puis elle avait l'habitude de se parler, de converser avec des gens dans les transports en commun, c'est ce qu'on faisait avant. Et puis souvent, vous remarquerez que la conversation peut commencer par « il fait beau dehors »,« mon Dieu, qu'il fait chaud dans le métro » ou quoi que ce soit, ou encore parler parce que la personne a un chien. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose, on vient de le dire, les gens sont rivés sur leur écran, qu'ils marchent dans le métro, dans le parc, sur un trottoir, peu importe. Alors, on se parle plus. Donc si on voit ça sous cet angle, c'est difficile de contester que les gens se parlent moins qu'avant. Ils manifestent en tout cas une forme d'indisponibilité, on le sent bien, à une conversation improvisée. Ils sont projetés dans l'ailleurs de la navigation sur téléphone et ainsi on se retrouve régulièrement, selon le mot de la sociologue américaine Sherry Turkle, seul ensemble.
Mmh.
Hein, c'est intéressant. Pas besoin pour observer ce phénomène de se rendre dans des espaces de transition ou d'attente en compagnie d'inconnus. Hein. On a juste observé des fois des dîners en famille ou entre amis ou chez des couples qui se regardent de façon épisodique alors qu'ils partagent un repas au restaurant. Ou encore lorsque vous avez un ami, des gens qui sont assis autour de la table avec le téléphone à côté puis qui checkent les notifications ou quand l'écran s'illumine. Donc, c'est un peu, c'est ça, communiquer aujourd'hui. Comme le note justement le neuroscientifique Michel Desmurget dans La fabrique du crétin digital qui a paru en 2019, force étude à l'appui, il suffit qu'un écran soit présent dans une pièce et le remarquer pour que les interactions interpersonnelles y chutent beaucoup. Et de manière emblématique, on a aussi remarqué qu'au sein d'un foyer, plus il y a d'écrans, moins les mots échangés sont nombreux et variés. Parce que tout le monde arrive à table avec ça, ou encore ils ont le téléviseur, ils ont l'ordinateur, etc. D'ailleurs, le philosophe Jean Baudrillard l'avait déjà esquissé dans les années 70 à propos de la fameuse télévision, le grand écran. Ah ben non, on est rendu avec le petit écran, le mini écran, et cette télévision-là, elle devait, dans son livre pour une critique de l'économie politique du signe, et la certitude que les gens ne se parlent plus, les gens sont collés sur le téléviseur à cette époque. Alors avec les téléphones cellulaires, ben ils ne regardent même plus la même chose. Ils vont regarder pas seulement le téléviseur, dans leur écran apparaît des jeux vidéo, des messengers, des messages, etc. Facebook. Alors on les nomme. Comment communiquer n'est pas parler, mais comment peut-on affirmer que nous ne nous parlons pas? pas ou plus, alors que ces nouvelles technologies nous font sans cesse échanger avec les autres, avec lesquels nous sommes en permanence connectés. C'est la question qu'on pose dans cet article. Et à l'heure de la communication de masse et des réseaux sociaux, cette plainte paraît bien paradoxale. Parce que toutefois, ces échanges relèvent-ils vraiment de la parole? C'est là qu'on parle, les gens ne se parlent plus, d'où le titre. C'est un anthropologue, David Le Breton, qui, dans La fin de la conversation, paru en 2024 dans son livre, à ses yeux, on n'a jamais autant communiqué, mais jamais aussi peu parlé ensemble. Que ce soit dans des appels, messages, commentaires ou autres vocaux, là, nous ne sommes pas dans le domaine de la parole, du dialogue ou de la conversation. Dans l'échange téléphonique ou numérique, on demeure cantonné à une forme de bavardage, par exemple, avec un usage qui est largement fatigue. Que veut dire fatigue? Ben, c'est dire bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez reçu mon message? C'est un langage dans lequel, essentiellement, on se signale où on au point toujours le risque de ne pas être compris, d'être mal interprété ou encore d'être zappé au profit d'une autre discussion. C'est dans notre quotidien, ça, hein?
Ouais.
C'est à ce moment-là qu'on prend le téléphone, on dit on va arrêter les courriels, puis on va jaser pour vrai, là. Cette communication est, malgré une attention diffuse, dans l'attente d'une réponse rapide, encouragée d'ailleurs par la possibilité de savoir que l'autre a vu notre message ou par l'étonnement que constitue un blanc dans un appel et fait de tout silence une anomalie. C'est pas normal qu'ils me répondent pas. C'est pas normal qu'ils m'ont pas compris,
oui,
ou qu'ils me relancent. Pas, hein?
Ah, donc, moi, j'ai des gens, parfois je reçois des textos pendant que je suis dans le métro. Moi, je t'avoue là, que dans le métro, souvent je lis, donc je mets les notifications à off. Et là, j'arrive chez moi et je regarde mon téléphone et là, la même personne, pendant peut-être les 15 minutes que ça a pris avant que je sorte du métro, que je rentre chez moi et que finalement je réponde, ben, elle était fâchée, j'avais pas répondu immédiatement.
C'est quelque chose, hein? Mm-hmm. Hein, c'est vraiment parce que David Le Breton, justement, il dit parler, c'est aussi se taire ensemble.
Mm-hmm.
Et cela sans suspecter une panne ou interruption de communication pour s'écouter,
ouais,
comprendre les propos de l'autre, nourrir sa propre réponse. Alors, on serait peut-être moins enragé à ce moment-là. Puis, à l'inverse de la communication, hein, la conversation sollicite une disponibilité, la communication numérique, un souci de l'autre, un échange, une flânerie, une lenteur, une intériorité, la valeur du silence et du visage, l'incertitude du cheminement. Donc, de converser, c'est ça que ça amène aussi, hein? Tandis que communiquer comme ça, numérique, c'est, on voit pas ça, on loupe tout ça, ces aspects-là.
Mais tu sais ce qu'on fait maintenant? Moi, je sais, quand je veux parler à quelqu'un de vive voix, je lui envoie un texto, je lui dis « Écoute, est-ce que tu es disponible dans les prochaines minutes? J'aimerais qu'on se parle. »
Ça, je trouve ça bien. Hey, on est rendu qu'on prend des rendez-vous téléphoniques.
Je fais ça.
Mon Dieu, il faut le faire parce que sinon, il ne se passerait rien.
Mm-hmm.
Fait que donc, cette communication, elle est une consécration mutuelle qui exige que le fil invisible reliant les individus en présence ne se rompe pas. Mais il y a pour éviter les pollutions inhérentes à l'échange distanciel à distance, rien ne vaut une rencontre en face à face dont les outils numériques peuvent d'ailleurs faciliter la planification, ou encore tout au moins, ou peut-être même, voire même l'annuler. Mais ces rencontres face à face, à l'image de ses voisins, que c'est rendu plus difficile de leur demander un service parce que tout le monde est individualiste, hein? On veut pas les déranger aussi, ça c'est un classique avec nos voisins, pour un simple petit coup de main. Ben non, aujourd'hui le numérique nous propose des tutoriels sur YouTube ou des chats GPT. Écoute, puis là on peut se référer au numérique, donc à ce moment-là on va pas voir le voisin parce qu'on a tout devant nous. Fait que, encore là, on va pas parler au voisin. Nos écrans mettent aussi en péril le dialogue réel lui-même du fait des nombreuses interférences que leur simple présence engendre. Posé sur la table, comme je mentionnais un peu plus tôt, du bar ou du restaurant, hein, ou à la table à la maison, ils attirent le regard furtif, hein, de leur possesseur. Ils sont curieux de voir si l'écran s'est illuminé, s'il y a une nouvelle notification qui n'est pas arrivée, qui va interrompre éventuellement la discussion entamée lorsqu'elle advient, quand on a une discussion avec quelqu'un en face à face, entre autres. Fait que tout de suite, ça amène une fragmentation de l'attention et ces interruptions-là potentielles mettent mal à l'aise, mal à l'aise et à mal la conversation qui est rendue secondaire par rapport à la communication. Hein, c'est quelque chose. C'est dérangeant d'avoir une conversation sérieuse avec quelqu'un quand on voit qu'il est attiré par son téléphone à tout bout de champ. C'est tout simple que ça. Ça résume un peu ce paragraphe. Ouais. Celui qu'on abandonne ainsi, ainsi se sent bien entendu de moindre intérêt, hein, et c'est comme ça qu'il se sent, ben, franchement, je me donne quoi d'être avec cette personne-là, que le portable de son interlocuteur. Donc, le numérique, le portable devient plus important que la personne qui est devant vous. Pourquoi donc ces comportements? Ben, c'est une forme d'accoutumance, c'est comme une drogue, hein. C'est un confort des relations numériques qui sont moins engageantes et sur lesquelles on a davantage de contrôle. Ça explique en partie la fortune que connaissent les échanges avec une intelligence artificielle dont on sait qu'elle ne nous jugera pas. Donc, par exemple, quand on a une distanciation aussi, comme par exemple rompre une relation, exemple amoureuse, via numérique, ça peut couper, on n'a pas le ressenti de la personne qui serait devant nous, donc on s'en claire un peu plus rapidement. Donc, c'est aussi bête que ça. Puis aussi, ben, ça amène une solitude qui est croissante, et c'est surtout les jeunes qui connaissent ça, parce qu'on veut se protéger du monde extérieur, on craint de froisser ou d'énerver en cas de désaccord, et c'est ça. Et on remarque ça surtout depuis la pandémie. Donc, la parole, elle, il faut voir comment on se parle. Si on n'a jamais autant pris la parole et en même temps qu'on s'écoute de moins en moins, c'est aussi parce que notre rapport au langage est vicié et que la parole est souvent réduite. Et c'est souvent réduite à une éloquence agressive. Et les politiques se sont faites, justement, une spécialité. Puis aussi, on impose son point de vue à l'autre avec un punchline bien senti. Tu sais, j'aime bien ça, le punchline bien senti. Ouais. Et plus aujourd'hui on parle, on ne se parle plus. C'est un sombre tableau que nous peint justement Gérard Garuti, qui lui a ouvert un centre des arts de la parole pour que les gens apprennent à parler, à s'écouter, parce que pour lui, ce sont des arts d'écouter et de parler. Et moi, je vous inviterai en terminant cet article de peut-être appeler quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, prendre de ses nouvelles tout simplement, puis d'écouter surtout.
Oui, c'est un beau conseil. Rapidement, j'ai une anecdote très rapide. Oui. J'avais une date, hein, un rencard, comme diraient les Français, et la personne, pendant que je lui parlais à table, textait. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, je lui ai texté, j'ai dit « je pense que ça ne marchera pas » et je suis parti.
Bon. Ah, t'as bien fait.
Alors voilà, après la pause, on va parler à Louis de Bernis. Merci beaucoup, Daniel Rioux.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Super.
d'entendre une chanson de Sarah Dufour.
Alors que les astronautes de la mission Artemis sont rentrés sains et saufs la semaine dernière, ben, je rappelle qu'en 1970, aujourd'hui, il y avait une explosion à bord du module de service de la mission Apollo 13. Et on se rappelle que ça mettait en péril le retour des astronautes, mais ils sont revenus. Ils sont revenus sains et saufs. Et puis, tant qu'à y être, un autre petit éphéméride du jour, Samuel Beckett, 1906, c'est donc l'anniversaire de ce célèbre écrivain et dramaturge irlandais, lauréat d'un prix Nobel de littérature, est connu pour, entre autres, En attendant Godot, qui sera présenté à nouveau cette année, adapté en fait à la prochaine saison du théâtre Denis Pelletier. Et on va aller parler à Louis de Bernice, qui lui revient d'une épopée, mais pas lunaire. Et on parle donc de Jonathan la tortue et non pas le goéland.
Exactement, Jonathan la tortue, pas n'importe quelle tortue. On parle ici de l'animal le plus vieux sur la planète, tout simplement. Encore en vie, une tortue géante des Seychelles, c'est sa race. Et qui est au cœur d'une histoire assez abracadabrante depuis 2 semaines. La tortue Jonathan a été annoncée morte à tort sur les réseaux sociaux et est en réalité toujours en vie. Cette rumeur, largement relayée par plusieurs médias étrangers, est née d'une usurpation d'identité en ligne. Et oui, ça peut toucher même les animaux, visiblement. Tout ça remonte au 1er avril, cette journée des annonces insolites et la plupart totalement fausses. Eh bien, un compte sur la plateforme X s'est fait passer pour le vétérinaire de l'animal, Joe Hollins, affirmant que Jonathan était décédé à l'âge très respectable de 193 ans. C'est avec le cœur brisé que je vous annonce le décès aujourd'hui de notre cher Jonathan, le plus vieil animal terrestre vivant au monde, survenu paisiblement à Sainte-Hélène, indiquait la publication. Il laisse derrière lui un héritage de résilience et de longévité qui a inspiré des millions de personnes. Repose en paix, mon vieil ami, tu vas terriblement nous manquer.
Donc c'est un lapin.
C'est toujours une tortue. L'information, elle a été consultée des millions de fois, malheureusement, rapidement reprise par différents médias, des médias importants, tels que la BBC, le Daily Mail, USA Today, qui n'ont pas assez vérifié l'information. Avant d'être démentie, cette information, parce que le véritable vétérinaire, qui n'utilise pas le réseau social X, a confirmé que la tortue était bel et bien vivante et a dénoncé au passage une arnaque qui visait à soutirer des fonds en crypto-monnaie. Selon The Guardian, qui a plus enquêté, des représentants d'organisations locales ainsi que le gouverneur de l'île Sainte-Hélène ou ville animale ont eux-mêmes vérifié son état. Jonathan a été retrouvé endormi sous un arbre dans son enclos en bonne santé malgré son âge avancé. Je pense que sur X, la personne se faisait passer pour moi en demandant des dons en crypto-monnaie. Ce n'est donc même pas un poisson d'avril, c'est une arnaque, tout simplement, a confirmé le véritable soigneur. Jonathan, donc, né en 1832, détient plusieurs records du Guinness Book. Cette tortue géante détient celui du plus vieil animal terrestre encore vivant. Elle vit donc sur cette île, l'île Sainte-Hélène, territoire britannique de l'Atlantique Sud, où elle a été offerte au gouverneur et réside toujours sur son domaine. Elle est devenue un véritable symbole local. Elle figure notamment sur les pièces de 5 pence de l'île. Et au fil de ces 2 siècles d'existence, elle a traversé, c'est fou de l'imaginer, mais tant d'événements historiques. Elle a vu la révolution industrielle, 2 guerres mondiales, connu plusieurs générations et dirigeants britanniques. Elle a aujourd'hui une vue assez altérée et une perte de l'odorat, mais cette tortue conserve, paraît-il, un bon appétit et un mode de vie paisible, principalement rythmé par l'alimentation et le repos. C'est une longévité assez exceptionnelle qui fascine scientifiques et visiteurs. Certains estiment que ça pourrait encore durer, que son espérance de vie pourrait même atteindre 250 ans. Jonathan pourrait être là encore une bonne soixantaine d'années. Un protocole officiel est déjà prévu pour le jour de sa disparition, mais Jonathan, pour le moment, semble encore loin de tirer sa révérence.
Bon, alors peut-être que Jonathan va passer outre le changement climatique et peut-être connaîtra des jours meilleurs.
On lui souhaite.
On lui souhaite. Mais en tout cas, d'ici ce temps-là, ne vous faites pas passer de sapin. Bon, ok, j'arrête. On s'en va maintenant au Cambodge.
Oui, pour un autre animal, une autre insolite, un rat cette fois-ci. C'est un héros national et international et il a désormais sa statue. C'est Magawa, un petit rat détecteur de mines antipersonnelles qui a donc sa statue qui a été inaugurée. Le monument a été dévoilé, c'était vendredi 3 avril récemment, dans la ville de Siem Reap, la veille de la journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines. Ce petit chrysétum des savanes, c'est son nom, a été entraîné à détecter les mines terrestres et autres explosifs par l'ONG belge Apopo. Durant sa carrière, qui a duré 5 ans, qui a démarré en 2016, Magawa avait détecté plus d'une centaine d'explosifs et avait sécurisé ainsi plus de 141 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 20 terrains de football. En 2020, il était devenu le premier rat du monde à recevoir une médaille d'or décernée par la PDSA, l'organisation caritative anglaise. Il était mort en 2022 à l'âge de 8 ans, après une retraite bien méritée. Comme lui, de nombreux rats sont entraînés au Cambodge et à travers le monde pour détecter les explosifs enterrés dans le sol. Grâce à leur taille, leur petit poids, les rongeurs ne déclenchent pas les mécanismes et grâce à leur intelligence surtout et leur odorat, ils peuvent s'aventurer dans des zones très dangereuses et détecter toutes ces mines qui sont enfouies sous le sol. Le Cambodge vit sous cette menace constante des mines antipersonnelles. En Europe, l'Ukraine va avoir ce problème dans les années qui viennent parce que les Russes en ont posé énormément. Les chiffres restent encore à déterminer.
Il y avait porté un protocole contre cela. Hein?
Oui. Et dans le pays, pour revenir au Cambodge, c'est plus d'un million de personnes qui vivent dans des zones qui sont truffées d'explosifs avec des accidents qui surviennent régulièrement, malheureusement. Voilà, donc le programme continue. Il y a beaucoup de rats qui sont encore utilisés. Magawa a sa statue, mais son record a déjà été battu. Donc il y a d'autres rats très entraînés. L'un d'eux, par exemple, qui s'appelle Ronin, a battu son record en détectant 109 mines antipersonnelles et 15 autres objets explosifs en seulement 4 ans. Il travaille fort, donc, et aide les humains.
Il y a un rat chez Ronin, oui, tout à fait. Bon, en tout cas, des rats anti-mines, les petits minous, on a des problèmes.
We'll be right back.
La chanson Lisbonne, Paris, la Sorbonne de la formation Grand Public.
La citation du jour aujourd'hui dans l'éphéméride du jour, c'est une citation de Victor Hugo. Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Puis je trouvais que ça allait bien avec la prochaine entrevue. On va parler du défi Karine Paquin. Nous recevons donc aujourd'hui une autrice qui a décidé de transformer la lecture en une véritable aventure collective. Hein, quand on parle de défi et parfois dans l'inconnu, une aventure. Alors Karine Paquin, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci à vous.
Alors, vous avez lancé, Karine, le défi, Karine Paquin, de manière assez spontanée sur vos réseaux sociaux l'été dernier. C'était quoi l'élément déclencheur ou l'étincelle précise qui a poussé là, ou qui a généré cette création-là?
Bien, en fait, il faut savoir que moi, je suis auteure, je suis une autrice jeunesse, donc ça fait 13 ans là, que j'œuvre dans le domaine littéraire, en littérature jeunesse, puis dans le cadre de mon travail, je me déplace souvent dans les écoles pour donner des ateliers, des conférences, des trucs comme ça, puis depuis le début de ma carrière, je cherche toujours la façon d'accrocher, de donner le goût de lire aux enfants, de fil en aiguille à travers les années, à me déplacer dans les classes, à un moment, j'avais eu l'idée de lancer des défis aux classes que je visitais en personne. Donc, je leur lançais le défi de se fixer un objectif de lecture et de tenter de l'atteindre d'ici la fin de l'année. Puis là, je leur disais, quand vous réussissez, vous m'écrivez, puis là, je vous envoie des cadeaux. Donc là, ça avait bien fonctionné, puis je m'étais demandé comment je pourrais élargir la portée de la mission à plus de classes, parce qu'il y a une capacité maximale de classe que je peux visiter dans une année en personne. Et de là, m'est venue tout simplement l'idée de dire, je vais lancer l'invitation à toutes les classes en début d'année, puis voir qui embarque dans le défi Karine Paquin.
Wow! Alors, le concept repose sur un thermomètre à colorier avec des objectifs fixés par les classes elles-mêmes. Alors, pourquoi cette approche visuelle et on pourrait dire participative fonctionne si bien? Parce que là, on parle de 2500 élèves là, qui ont relevé le défi, là.
Oui, en fait, je m'adresse à des élèves du primaire, donc on parle de même préscolaire primaire, donc des enfants de moins de 12 ans. Alors, un repère visuel, c'est bien pour eux de visualiser la quantité de livres, parce que là, tu sais, on dit 20, 30, 40 livres, mais quand on le voit, le thermomètre qui augmente, puis qu'on voit notre défi tranquillement, on voit qu'on va atteindre notre objectif, c'est super motivant pour les enfants. Puis moi, j'avais surtout envie de donner un projet clé en main aux enseignants puis aux enseignantes. On sait que la tâche est lourde. J'ai moi-même enseigné jadis il y a quelques années. Donc, j'avais envie vraiment de leur proposer quelque chose de clé en main qu'ils vont pouvoir prendre, mettre dans la classe, puis suivre de façon assez facile et naturelle. De là, l'idée de créer moi-même le visuel et de ne pas laisser la lourde tâche aux enseignants de réfléchir à comment compiler toutes nos lectures.
Ouais, c'est intéressant tout ça. Puis dans les défis que vous lancez en cours de route, vous encouragez la découverte d'œuvres de littérature d'ici. C'est important pour vous, ça?
Absolument. Mais oui, mais en fait, c'est ça, c'est que tout au long du défi, j'accompagnais les jeunes à travers des vidéos là, qui les motivaient. Puis je relançais, comme vous dites, des nouveaux défis, dont découvre un auteur québécois ou c'est super important pour garder notre culture en vie, pour garder le marché, l'industrie du livre en santé, pour que les jeunes puissent avoir des référents aussi qui leur ressemblent, pour que les jeunes puissent lire des œuvres, des ouvrages de gens d'ici. Puis il faut savoir que le milieu littéraire, c'est un petit milieu hein, au Québec, puis c'est facile d'avoir accès à ces auteurs-là qui écrivent, donc d'aller dans les salons du livre, de les rencontrer, donc de créer un sentiment d'appartenance aussi à la littérature. C'était important pour moi de le faire.
Faire lire les jeunes des livres alors qu'ils ont souvent leur nez dans les cellulaires, c'est déjà tout un beau défi à relever. Et je vais donner des chiffres, puis corrigez-moi, Karine, si ça a évolué depuis, parce que je tiens ça de communiqué de presse qui date quand même de quelques semaines. On parle de 61 000 livres lus à travers les 11 régions administratives du Québec. C'est toujours ça?
Ben oui, parce que le défi s'est terminé en fait en décembre. Le défi durait un certain temps, soit de fin septembre à début décembre.
Donc, il n'y a pas eu d'autres...
Il n'y a pas eu d'autres, non. Les prochains chiffres vont être pour l'édition 2026-27.
Parfait. Alors, au-delà des chiffres, quel témoignage, est-ce qu'on peut parler un peu des réactions des enseignants, enseignantes ou même les élèves? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous ont...
Oui.
Ouais.
Ben, c'est intéressant que vous me posiez la question parce que j'arrive du Salon du Livre de Québec, de là ma petite voix rauque.
On n'avait pas noté ça.
Donc voilà, donc j'ai rencontré beaucoup de jeunes dernièrement là, qui ont fait le défi Karine Paquin. Fait que là, c'était super intéressant de voir ces enfants-là qui venaient vers moi pour me dire « Hey, on a fait le défi Karine Paquin ». Et chaque fois, je leur demandais « Est-ce que ça vous a motivé? Avez-vous atteint votre défi? Est-ce que c'était le fun? » Et je voyais les étoiles dans les yeux des enfants. « Ah oui, on a vraiment aimé ça. C'était le fun. On t'a vu en vidéo. » Donc, les jeunes sont venus vers moi. Ils n'avaient pas à le faire. Il n'y a personne qui leur a dit de le faire. Donc ça, c'est un bon indice que ça l'a super bien fonctionné. Et oui, il y a aussi des enseignants et des enseignantes à la fin du défi qui avaient pris la peine de m'écrire pour me dire merci pour cette belle motivation-là, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est de trouver une motivation pour nos élèves, pour les faire lire, parce que c'est en fait, on veut créer des habitudes de lecture. Pour créer une habitude de lecture, ben il faut que l'enfant déjà accepte d'ouvrir un livre et de le lire. Et là, ben c'est là que moi j'entre en jeu avec le défi. C'est que là, je leur donne une motivation de le faire. Au départ, la motivation, elle est extrinsèque, donc pour le défi. Mais à force de lire, d'ouvrir des livres, vous les avez nommés, là, les 66 000 livres. Donc, des enfants ont lu des livres qu'ils auraient probablement jamais lus. Mais là, à partir du moment où on entre dans le milieu littéraire et dans les défis, j'avais aussi découvre des nouveaux genres. Si t'as jamais lu de BD, lis-en une. Si t'as jamais lu de documentaire, lis-en un. Et là, on a peut-être créé chez certains enfants une nouvelle histoire d'amour. Et à partir du moment où le désir de lire est là, bien, la motivation devient intrinsèque. Et là, ils n'ont plus besoin de mon défi. Ils peuvent poursuivre la lecture naturellement, avec plaisir, à la maison ou à l'école.
Mais je suis certain que ça doit aider beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui, on le sait, sont débordés de travail. Alors, d'avoir un petit peu d'aide de votre part, je suis certain que ça, c'est très apprécié.
Voilà, j'essaie de faire ma part. J'ai quitté le milieu de l'enseignement parce que je devais choisir entre deux carrières. J'ai choisi celle d'auteur, mais j'ai encore dans mon cœur le désir de porter une mission. C'était voulu là, d'appuyer mes anciens collègues enseignants et enseignantes.
Justement, on vient de le dire, vous avez enseigné pendant 10 ans au primaire avant de devenir écrivaine à temps plein. Comment cette expérience devant une classe influence-t-elle aujourd'hui votre manière de concevoir des projets comme ce défi ou d'écrire vos séries de livres jeunesse?
Ça change tout. Ça change tout parce que déjà, j'ai l'habitude d'être devant les classes et j'ai cette façon, je pense, de pas seulement me questionner à savoir est-ce que j'offre une belle performance, mais plutôt qu'est-ce que les enfants vont en retirer de ma visite, parce que c'est ça qui est plus important pour moi. Au-delà d'aller bien paraître devant une classe, je veux surtout aller créer un impact positif chez les élèves, puis de surtout créer un impact qui va se répercuter à long terme, donc créer des jeunes qui vont peut-être s'accrocher à la lecture ou du moins s'y intéresser. Donc, il y a ce désir-là, peut-être un peu pédagogique, qui tient un peu toujours derrière mes idées, derrière ma façon d'approcher les jeunes, tout en étant de façon très théâtrale aussi, amusante, agréable. Comme je dis aux enseignants, là, je suis pas une prof devant la classe, je suis là pour venir amuser vos élèves, mais quand je repars, les enseignants ont l'impression qu'il y a quelque chose qui est resté dans la classe, outre qu'une auteure qui vient parler de son processus créatif. J'ai donné des outils concrets, j'ai aidé les jeunes, je leur ai donné des trucs d'auteur, mais des trucs qu'ils peuvent réellement appliquer dans leur quotidien à l'école pendant tout leur parcours scolaire. Donc, c'est ça qui est important pour moi.
J'ai lu quelque part qu'on parle de votre humour, d'un humour à double sens qui séduit à la fois les parents et les enfants. Est-ce que c'est là le secret là, pour réussir à promouvoir la réussite scolaire tout en créant un véritable plaisir de lire loin là, de cette contrainte académique?
Je pense que vous avez une partie de la clé de la solution, effectivement. Bien sûr, l'humour va... Il y a beaucoup d'enfants qui me disent que c'est ce qu'ils aiment des livres que je produis. L'humour et l'audace, faut dire. De là, mon humour à double sens, c'est que parfois, je vais faire des clins d'œil à mes lecteurs à travers les livres. Donc, l'auteur, je brise le quatrième mur, comme on dit au théâtre, mais je le brise en littérature aussi. Je m'adresse personnellement aux enfants dans mes livres en tant qu'autrice du livre. Puis ça, ils aiment ça, ils trouvent ça drôle. Ça crée un lien entre eux et moi. Puis quand je me présente en vrai dans les classes, ben là, ils connaissent déjà cet humour-là. Ça les fait rigoler. Puis ça leur montre que lire, c'est amusant. déjà, qu'on peut se divertir en lisant, que c'est pas juste une tâche scolaire, et on lit pour toutes sortes de raisons, et c'est ce que je leur raconte aussi quand je vais dans les classes. Puis une des raisons peut être de s'amuser tout simplement, sans nécessairement être en train de lire pour apprendre quelque chose. Parfois oui, mais parfois on fait juste aussi se divertir.
Mais il y a les parents qui vont rire aussi, peut-être pas pour les mêmes raisons.
Exact. Ben, dans la plupart de mes albums jeunesse, entre autres, je vais faire des blagues, là, parfois pour les parents, des blagues que les enfants vont pas saisir, mais qui alourdissent pas du tout le texte. Par exemple, je peux te dire que j'ai une collection qui s'appelle les albums de la ferme de la Haute-Cour, et à la ferme de la Haute-Cour, on voit plusieurs animaux qui traversent toutes sortes de réalités. Donc, c'est des sujets assez d'actualité que je présente de façon ludique et agréable aux enfants. Et dans celle-là, on a une vache Highland qui est différente des autres et qui arrive à la ferme de la Haute-Cour. Et là, il y a les vaches à taches, les vaches Oyston, là, les tachetées de noir et blanche, qui veulent pas qu'elle rentre dans l'étable parce qu'elle n'a pas l'air d'une vache. Hein. Vous savez, les vaches Highland rousses avec leurs gros toupettes.
Oui,
et bon.
Oui, oui.
Donc là, à la fin de l'histoire, dans la morale, il y a, c'est connu, les ruminants mettent plus de temps à digérer que les autres. Vous voyez, c'est le genre de blague là, qu'un enfant ne va pas du tout saisir, mais qu'un parent peut faire « Ah, c'est drôle ». Mais donc, oui, j'essaie de faire...
Moi, ça me parle, en tout cas. C'est mon genre voilà. D'humour. Le gala virtuel de janvier a récompensé de nombreuses classes. Pour les enseignants qui nous écoutent et qui trépignent d'impatience, parce que je suis certain que ça les intéresse, qu'est-ce qu'on peut leur dire là, pour la prochaine édition et les modalités d'inscription pour l'automne prochain?
Oui, mais déjà, en fait, si on va sur mon site internet, carinepaquin.com, Carine avec un C,
oui.
On peut déjà accéder, aller voir le défi, voir les photos de cette année, les chiffres et tout ça, mais on peut aller se mettre sur la liste de rappel. Donc, c'est pas une inscription encore officielle, mais ça fait que à l'automne, on va vous écrire pour vous dire, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Donc, tu sais, les enseignants, en ce moment, n'ont pas encore leur groupe pour l'an prochain, ça se pas trop, mais peuvent du moins se mettre sur la liste de rappel et pas manquer le bateau, comme on dit. Ça coûte rien, ça n'engage à rien. Donc, j'encourage les enseignants ou même ceux, n'importe quel parent qui écouterait en ce moment et qui aurait envie d'en parler là, à l'enseignant de son enfant, ils peuvent aller juste se mettre sur la liste pour avoir le petit rappel l'an prochain de manière à pouvoir embarquer dans le défi Carine Paquin avec le défi bonifié. Hein, c'était notre première édition officielle cette année. Donc, pour l'an prochain, on revient avec une version améliorée, comme on dit. Donc, j'ai super hâte de relancer ça l'automne prochain.
Nouveau et amélioré. Merci beaucoup, Carine Paquin. Donc, pour plus d'informations, c'est le site carinepaquin.com. Merci beaucoup.
Voilà. Merci à vous. Bonne journée.
Dans la presse d'aujourd'hui, je devrais dire, la mortalité recule pour les deux tiers des types de cancers étudiés selon l'étude Projection du fardeau du cancer au Canada en 2026, publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne. 254 000 Canadiens, dont 67 300 Québécois, recevront un diagnostic de cancer cette année. Les cancers du poumon, du sein, de la prostate et du côlon représentent à eux seuls 47 % des nouveaux cas. Les données révèlent que l'incidence est de 16 % plus élevée chez les hommes et la mortalité y est de 36 % supérieure par rapport aux femmes. Les épidémiologistes attribuent ce fléchissement à l'immunothérapie et aux campagnes de dépistage. À ce sujet, la Société canadienne du cancer préconise désormais d'abaisser l'âge du dépistage à 40 ans pour le cancer du sein et à 45 ans pour le cancer du côlon. Malgré ces avancées, des obstacles subsistent. Un quart des nouveaux cas de mélanome et de cancer du poumon souffrent de retard de diagnostic liés aux difficultés d'accès aux médecins de famille, alors aussi qu'un dermatologue sur cinq pratique dans le privé. L'incidence donc du cancer normalisé selon l'âge est projetée à 663,3 cas pour 100 000 personnes au Québec, comparativement à une moyenne nationale de 591,4 cas au Canada, donc cette année. Nous, on a le temps de vous dire qu'après la pause, on va parler du gala Dynastie et on va parler aussi du mois de l'autisme. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
se réchauffe, fais le pas. L'amour se révèle, fais le pas. Elles veulent pas toi, fais le pas. Fais le pas, yeah, fais le pas. Yeah. Je suis en mode game set, je me défoule, je carbure. Mes gosses sont choc, donc j'évite les censures. L'image change, pas besoin de réchauffer. Au bout du précipice, moi je suis prêt à me lancer. Le grand de ce monde était jadis un enfant. Ceux qui oublient, c'est qu'ils sont perdus dans le temps. Et c'est bien clair quand tu vis pas le présent. L'équipe adversaire, elle est devant ton miroir. Série éliminatoire, elle commence ce soir. On bosse fort et toujours besoin de renfort. Même à 3-1, on va rien lâcher. Je suis riche, résilient, t'as pas à t'inquiéter. Y'a pas des petites en plate, on vous banane pesée. Non, les roues, on les semblait, on vient de boulette, boulette. J'suis pas venu ici simplement pour danser. Mais bel et bien, bouvine, baillon d'âle, souffle, souffle. La planète se réchauffe, fais le pas. L'amour se révèle, fais le pas. Elles veulent pas toi, fais le pas. Fais le pas, fais le pas. Et on pense pas, lève-toi et fais le pas. Vibe sur le son et fais le pas. Y'a pas d'erreur quand tu fais le pas. Fais le pas, fais le pas. Et on pense pas, lève-toi et fais le pas. Vibe sur le son et fais le pas. Y'a pas d'erreur quand tu fais le pas. Fais le pas, y'a yeah, fais le pas. C'est non, mais t'as ma naviguée, elle est ma balancée. Sous la mègue, elle est la chavirée. Avant au fin de monter sous lui, faut qu'on apprenne à nager. Qui va jamais trop tasse ou moins de map tout. Mais tête les trois, tu es les paves l'étendé. Flexibilité son bail ou baga ignoré. Ça c'est sauce pam, move pam, voile pour sac pam. Les pompiers au vini, ça y ouais, c'est en flamme. T'es venu tuer, tu fais meilleur, ouais, y'a pas de capable. Digital là pour monter yon belle femme. Sous chita, waka bicha, baga plein, yen, bail ou pas là. La planète se réchauffe, fais le pas. L'amour se révèle, fais le pas. Elles veulent pas toi, fais le pas. Fais le pas.
La chanson « Fais le pas » de Wally.
Alors, ce samedi, c'était la dixième édition du gala Dynastie et c'était la dernière. On va expliquer un peu pourquoi dans cette entrevue. Ce gala a pour but d'honorer et de faire découvrir les talents afro-descendants au Québec. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir deux piliers de cet événement, chacun représentant une facette de son évolution. D'un côté, Gaël Comtois, le visage et la voix du Black Carpet depuis les tout débuts, et celui qui a vu l'événement grandir et s'installer au Théâtre Maisonneuve. Bienvenue à Canal M, Gaël.
Hey, je suis content d'être ici.
On est très content.
Un peu en onde, mais je connaissais pas. Puis là, on est bien dans votre studio.
Ah, on est bien, c'est
ouais,
chaleureux.
C'est
on
très
est bien
chaleureux.
De l'autre côté, Nadia Louis Desmarchais, qui est cinéaste, dont le talent a été sacré avec le prix Avenir, si je comprends
oui,
bien.
Oui, le prix du futur, mon Dieu.
Ben, bravo. Bienvenue tous les deux. Alors, Gaël, je vais commencer par toi parce que tu étais là depuis le tout premier jour. Quand tu regardes le chemin parcouru entre les premières éditions et cette dixième bougie, qu'on peut dire là, au cœur de la Place des Arts, quel est le changement le plus frappant que tu as observé? À part l'ampleur du gala, évidemment, là.
Ouais, le changement le plus frappant, je pense que c'est l'espoir, en fait. C'est l'espoir, la crédibilité, la fierté, le prendre sa place aussi. Je pense que c'était quelque chose qui était tellement important avec le gala Dynastie. Et dans cette dixième édition, je trouvais que tout le monde était là et devait être là, avait sa place. Je me sentais comme un pilier, en fait. De là, un peu, le côté que ça me rend triste, un peu que c'est la dernière édition. Donc, je trouvais ça beau, en fait. J'étais comme, hey, on a atteint où est-ce qu'on doit être, en fait. Et il y a le futur qui peut s'en venir aussi, qui est très beau. Mais ouais, c'est ça que je ressentais, en fait.
Ben moi, je trouve que ça m'a permis de découvrir plusieurs artistes afro-descendants que je n'aurais peut-être pas connus autrement. Mmh. Alors, j'ai beaucoup aimé le gala pour ça. Puis d'ailleurs, une des raisons que je suis content que tu sois là, Nadia, parce que tu fais partie de ces personnes qu'on a découvertes dans ce gala. Est-ce que c'est une... Ce gala, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, à toi, personnellement?
Moi, le Gala Dynastie, c'est, je pense que c'est un pilier même au cœur de mon identité comme femme noire. T'sais, j'en ai parlé un petit peu dans mon discours, mais le Gala Dynastie, moi, je l'ai découvert il y a 6 ans. J'étais encore à l'université, puis j'avais de la misère à l'université. C'était difficile, je me faisais beaucoup critiquer, je me faisais beaucoup... t'sais, j'étais une des seules femmes noires de mon université, donc t'sais, j'étais souvent la seule femme de couleur dans les espaces artistiques dans lesquels j'étais.
Puis, il y a des attentes hein, quand ouais, on est une personne ouais, qui ouais, est doublement minorisée. Là.
Ouais, beaucoup de pression, mm-hmm, beaucoup de sentiments de ne pas tout à fait savoir elle est où ta place. Puis je me rappelle que j'étais arrivée au Gala Dynastie, tu vois tous ces artistes-là, Kay Tranada, Dominique Fils-Aimé, t'es dans les mêmes pièces que des artistes que t'admires, des artistes noirs ici au Québec. Tout le monde est dans la flamboyance, dans l'extravagance. Puis je me rappelle que je m'étais dite « Ah, j'aimerais tellement ça être nominée un jour au Gala Dynastie. Mm-hmm. » Puis là, tu sais, ça fait 3 années que je suis nominée pour mes courts-métrages, pour ma série... puis là, de recevoir le gala, ben le prix hommage pour l'avenir, ça, honnêtement, j'ai été extrêmement émue quand j'ai reçu la nouvelle. Puis, ouais.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, parlons un petit peu de ce que tu as fait depuis 3 ans, parce que tu as fait une série, tu as fait des courts-métrages, oui.
Oui, oui. Dans le fond, j'ai gradué de l'université il y a 6 ans.
Oui.
Donc, depuis, j'ai réalisé 6 courts-métrages. Donc, j'ai... probablement 4 courts-métrages documentaires, 2 courts-métrages de fiction, dont Nid d'oiseau, Dortu, Le monde est à elle, Rated X, Urban. Donc, vraiment des courts-métrages, des films qui vont dans toutes les directions, autant dans l'identité des femmes noires, les cheveux crépus, même l'identité du X. En tout cas, ça va dans toutes les directions. Puis j'ai aussi réalisé la web-série Les Météorites, oui, pour laquelle j'ai gagné un Gémeaux à l'automne, qui a gagné un prix au Festival de fiction de La Rochelle. Puis là, tout récemment, je viens de sortir mon premier long-métrage documentaire recomposé, qui a gagné le prix du public au RDM, puis le prix du jury étudiant. Puis
une c'est étoile
comme...
montante, ouais, hein? c'est le cas de le dire. Ouais, bravo à toi.
Merci.
Gaëlle...
Elle a gagné le prix de l'avenir pas pour rien, tu vois.
Oui, je vois ça, là.
Je trouve ça intéressant, tu
Est-ce
vois,
que tu fais encore de donner des entrevues quand tu
oui!
vas chez célèbres?
Toujours! Toujours!
Mais tu vois, je trouve ça intéressant, justement, du Gala Dynastie, aussi cette force-là de... On est tous là, mais je pense qu'on... Peut-être qu'on se communiquait pas, en fait, ou peut-être que des fois, on savait pas le travail des autres. Le gala, dans les 10 ans, a permis ça aussi. A permis cette connexion-là, cette espèce de réunion-là entre mm-hmm, artistes de la communauté, entre artisans, en fait, et de faire « Ah, mon Dieu! Ah, » puis de créer des liens, puis de faire on est là, on est présent, on peut même travailler ensemble.
Ouais, on arrive à se rassembler 100%. Grâce au Gala Dynastie, puis tu sais, des fois, on est tellement isolé, puis on est tellement occupé à ouais, juste essayer de survivre, puis faire une carrière dans notre milieu, que ouais, ben, d'avoir le Gala Dynastie, ça nous permet d'être comme, hey, OK, on link up, on
ouais,
connecte.
Puis qu'on n'est pas seul, tu vois. Ouais. On fait quand même, mon Dieu, crème, ben non, il y a des réalisatrices, il y a des acteurs, il y a des chanteurs, des musiciens, bref, c'est fou.
Ouais.
C'est tout un monde.
Gaëlle, puisque tu es là depuis le début aussi, est-ce que tu sens que les médias généralistes, le public en général, mm-hmm, a changé sa façon de percevoir les artistes afrodescendants
je pense,
grâce au gala?
Tout ça, c'est sûr et certain, oui, je le sens. Et je pense que ça apporte un vent de fraîcheur aussi. Et aussi, on le disait, on vient de le dire, pour nos communautés aussi, d'avoir des modèles. Moi, bon, je suis un jeune métis, je me reconnaissais pas du tout. C'était quoi mes modèles quand j'étais jeune? J'étais beaucoup vers les États-Unis, tu sais, vers des artistes que je regardais, mais au Québec, je retrouvais pas ça. Donc, je pense que pour le public, oui, 100%, les gens sont retrouvés. On a trouvé des modèles avec ça. Et ça fait du bien de voir des nouveaux visages aussi. Ça fait que notre culture a grandi et on a besoin de ça vraiment en 2026. Dans la culture québécoise, il faut l'agrandir. Elle est diverse, elle est belle, il faut être fier de ça. T'sais.
Puis d'apprendre à se connaître. Moi, je vais faire mm-hmm, un petit aparté. Je regarde beaucoup de mini-séries ou de téléséries sur les plateformes, dont ouais, Tout.tv. Et il y en a une que j'ai vue qui m'a vraiment secoué, c'est Grimmel.
Oui.
Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et,
mm-hmm,
et
tu je parlais joue dedans.
Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, tu veux.
Je joue dans le dernier épisode.
Oui.
Ouais.
Et puis et ce que je trouvais intéressant, c'est que là, on entendait les revendications de femmes noires. Mm-hmm. Et tu en as parlé tantôt des mm-hmm, cheveux. Et ça, J'avais aucune idée jusqu'à quel point c'était un sujet aussi important.
Mais oui, mais c'est une des choses qui est le plus visible peut-être du fait qu'on est noir. Tu sais, c'est le fait que nos cheveux défient la gravité là quand même. Ouais. C'est quand même amazing. Donc, tu sais, je pense que ça a été quelque chose qui a fait rire, ça a été quelque chose qui a créé de l'inconfort, mais ça a été quelque chose aussi c'est quelque chose d'extrêmement important, genre, pour les femmes noires, pour les hommes noirs. C'est quelque chose qui nous définit, puis c'est quelque chose qu'on doit se battre pour embody, tu sais, pour être capable de bien vivre avec. C'est tout un processus. Grimmel en parle, moi, j'en parle dans plusieurs de mes projets. Ouais. C'est quelque chose de récurrent où est-ce que ben, tu te rends compte que parfois, pour être capable d'être bien avec toi-même, dans ton métissage, dans ton identité noire, tu as besoin aussi de passer par tes cheveux. Fait que c'est vraiment un sujet qui est très riche, puis ça peut sembler anecdotique, mais il y a énormément de couches sous les cheveux afro. Là.
En tout cas, moi, ça m'a ouvert les yeux. Ben justement, le fait qu'on ait des organisations comme ça, et là, malheureusement, on apprend que ça se termine cette année.
En fait, Carla voudrait qu'on dise, c'est pas que ça se termine, c'est la fin d'une ère, c'est un chapitre, comme dans un livre. Je pense que c'est pas je pense que le livre n'est pas terminé, au contraire. L'espoir là-dedans, et qu'est-ce que ça a donné, c'est que ça a montré qu'en disant, regardez ce qu'on a pu faire.
Oui, tout à
fait. Donc, on s'est regroupé, il faut juste continuer à être ensemble. Je pense qu'il faut continuer à pousser ce projet. Donc, est-ce que c'est la fin, je pense, dans sa formule comme c'était, mais je crois que c'est le début de quelque chose d'autre. Je pense que ça va donner énormément d'espoir à d'autres gens ou même peut-être des initiatives qui vont naître de ça. Parce que, ben, comme tu le disais, tu vois, elle, il y a 6 ans, elle est allée au Gala Dynastie, ça lui a ouvert les yeux. J'ai eu tellement de témoignages de gens comme ça qui étaient comme, hey, mon Dieu, moi, la première fois que je suis allé, j'ai fait, ah, j'ai ma place, je peux être là, je peux évoluer dans ce milieu. Donc, je crois que ça a fait beaucoup d'enfants et j'ai confiance quand même, j'ai confiance au futur.
En tout cas, pour les personnes blanches, c'est intéressant de découvrir ces personnes qui habitent autour de nous, puis dont on entend... Remarque que ça commence à changer, j'avoue, là, qu'on commence à vous voir un petit peu plus à l'avant-scène, c'est quand même, en espérant que c'est pas...
Ben oui, mais autant au niveau des acteurs, autant au niveau des personnalités, de la musique, hey, mon Dieu, je pense qu'on a toujours été là, en fait. C'est juste que peut-être que le média se concentrait seulement sur une partie, je pense, de la société, ce qui est très dommage. Et c'est ce qui cause que présentement, on a une crise aussi dans les médias. Parce qu'il y a des gens en fait, quand on regarde la télé, quand on regarde des films, on veut se voir, on veut se reconnaître.
Ouais.
Pendant longtemps, moi, je ne me suis pas reconnu. Je ne suis pas le seul.
Ouais.
Mm-hmm. Donc, voilà.
Puis on est beaucoup, là. Tu arrives au Gala Dynastie, puis il n'y a pas 15-20 personnes de couleur dans le milieu des arts. Je veux dire, on est des centaines, là, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui est... C'est énergisant, c'est... Ouais. Ça te permet de te projeter, ça permet de te dire, OK, en fait, je peux croire que je peux être artiste puis je peux avoir une carrière dans ça. Il y a énormément de gens autour de moi qui le font. Tu sais, je veux dire, Corneille qui était là il y a 2 ans. Je veux dire, c'est...
Catranada, tout ça. Puis je le dis souvent, là, moi, je trouve que c'est le meilleur gala. J'en ai fait des galas. C'est le fun. Le black carpet, tout le monde est beau. On est stylé, on est extravagant. Là, dans le gala, ça danse, ça bouge, c'est le fun. Tu restes pas tout le temps assis, debout.
C'est vivant, puis les arts, c'est vivant.
Il faut que ça soit ça.
Juste avant de terminer, il y avait une espèce de prix du public. Est-ce qu'on sait qui a gagné ce prix?
Oui.
Le prix, il y avait prix du public du côté média. Donc ça, c'est Kitty Antoine.
Ah, qui travaille ici. On est très contents.
Ah,
bravo
ouais.
À Kitty.
Elle travaille ici?
Oui, elle fait une émission ici, Kitty.
Wow. Arrête!
C'est une bonne amie à moi aussi. Alors oui,
génial.
Bravo. Et
puis le choix du public côté culture, c'était Dardia Joseph.
Excellent. Et merci beaucoup, donc, Nadia Louis Desmarchais. Et merci à toi aussi, Gabriel Contreras, d'être venu ici.
Merci
beaucoup pour l'invitation.
Small talk.
Eh bien, on vient d'entendre « Différent comme toi » avec France D'Amour. C'est la 10e chanson composée pour Benjamin Graton. Il est chanceux, celui-là. Et puis, je vais vous le dire tout de suite, il est bien en vie, même si dans son rôle dans le stade, c'est autre chose. Mais alors, on reçoit aujourd'hui Benjamin Graton et Mathieu Graton, son père, parce qu'on parle de ce mois d'avril qui est le mois de l'autisme, une période qui est dédiée à la sensibilisation et à l'inclusion. Alors, bienvenue tous les deux à l'émission.
Ben merci.
Merci.
Salut Ben.
Salut Ben. Salut. Salut. Alors oui, je fais la blague, là, mais il est bel et bien vivant. C'est dommage, on te perd dans Stat, mais bon, qu'est-ce que tu fais, c'est des choses qui arrivent. Benjamin, tu viens de sortir, donc on vient de sortir cette 10e chanson intitulée « Différent comme toi ». Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as maintenant presque un album au complet à ton actif composé pour toi?
Ça, papa, je vais te laisser répondre à ça.
Ah!
J'adore ça.
Il est gêné.
c'est que Benjamin, tu sais, il suit, à chaque année, il rencontre un nouvel artiste. Puis je peux te dire, cette année, il a vraiment eu du fun avec France quand on a tourné les images. Il est souvent impliqué là, dans les vidéos. Mais depuis quelques années, avec France D'Amour, tu te rappelles avec Yannick Fournier, Benjamin aussi?
Ah oui, au studio Moonsun.
Exact. Yannick avait amené ses enfants. Fait que, de plus en plus, Benjamin fait des belles rencontres, puis il est plus impliqué dans les vidéos. Il fait les contacts avec ces gens-là. Fait que c'est ce que je trouve le fun au-delà de la chanson, c'est le contact avec les artistes. Puis les artistes sont toujours très touchés. France était tellement heureuse de participer que ça a fait ma journée. Le jour où elle me dit oui, là, instantanément, on était très heureux.
Mais on parle ici du monde de Benjamin. Le monde de Benjamin, c'est aussi parce qu'on parle des personnes, est-ce qu'on dirait des personnes neurodifférentes ou on parle du mode de l'autisme aussi. Alors, c'est quand même des artistes qui se prêtent à ça. C'est quand même intéressant. Et qu'est-ce que ça dit au niveau du fait que les gens répondent tant à cet appel?
Ben moi, je pense que Benjamin, touche les gens. Les artistes connaissent Ben, tu sais, ils connaissent sa mère, ils connaissent son père un petit peu aussi, même si j'habite loin, on se croise. Fait que, tu sais, la cause fait de plus en plus jaser, puis on a ouvert cette cause-là, nous autres aussi, à la déficience intellectuelle, aux différences corporelles, même des handicaps physiques chez les jeunes. Fait que, tu sais, pour nous, le mois de l'autisme, c'est aussi le mois des besoins particuliers en général. Je pense que ça touche tout le monde, tous les artistes ou à peu près vont me dire « Ah ben mon petit filleul, il est TDAH, ou il est autiste, ou il a une déficience intellectuelle. » Tout le monde est touché par ça. Fait que je pense que les artistes, quand c'est un projet artistique en plus, c'est pas juste une présence dans un souper, ben je trouve que ça, je pense que ça les motive comme France, à écrire elle-même les paroles.
Oui. Benjamin, il y a cette série qui s'appelle Benjamin Graton, tout comme le monde. Ça va arriver le 23 avril à Véro TV, donc sur tout.tv. Ce qui est intéressant, donc, c'est basé sur le fait que tu as vécu seul dans un condo pendant 30 jours là, pour tester ton autonomie. C'était quoi l'étape la plus difficile pour toi de faire cette expérience-là?
C'était pas mal faire l'épicerie, le ménage.
Tout ce qu'on n'aime pas faire, finalement, Benjamin, moi, je suis d'accord avec toi, je trouve ça très difficile de faire l'épicerie et le ménage.
Ben, cuisiner aussi, c'est un enjeu, parce qu'on s'entend que quand on pense à nos jeunes qui vont éventuellement peut-être quitter, soit dans des appartements supervisés ou dans un modèle qui va convenir à chaque famille, il y a des enjeux. Même si l'autonomie est là, il faut être capable de se nourrir. Puis ça a été ce qui a été le plus difficile pour Benjamin. Les premiers jours, c'était surtout des repas congelés. On s'est rendu compte qu'il était très autonome pour aller au restaurant aussi, mais sauf que ça, en bout de ligne, on ne peut pas vivre que de restaurant, ça finit par faire un trou dans le budget. Puis petit à petit, Patricia et moi, on a installé des repas maison, donc ce qui devrait être le cas dans beaucoup de familles qui décident là, d'entourer leurs jeunes, c'est-à-dire on fournit aide au ménage, repas déjà préparés, puis c'est de l'organisation quand on pense à ça, puis au futur. Parce que même quand on sera plus là, qui va les faire ces repas-là? Le documentaire n'apporte pas toutes les réponses, mais amène une réflexion sur on est-tu prêt à ça? Où vont aller nos jeunes quand on va être mort, finalement? C'est rough, là, mais c'est ça pareil.
Bien, c'est une question qui est importante à se poser, effectivement. Je retourne à toi, Benjamin. Qu'est-ce que tu as appris sur tes propres limites et sur tes forces pendant ce mois ou ces 30 jours que tu as passé en condo?
Encore une fois, je vais devoir demander à mon père.
Ben Benjamin, ça c'est plus difficile pour toi de répondre à celle-là, mais pense à tout ce que tu es capable de faire au niveau des transports. Comment ça s'est passé? Tu faisais quoi pour te déplacer pendant ce mois-là?
Ben, je prenais le bus, je prenais le métro.
C'était ça un peu son autonomie à lui, ses forces, c'est vraiment d'être capable d'atteindre sa liberté. Ce qui est un enjeu chez beaucoup de personnes autistes ou même des personnes handicapées à mobilité réduite, se déplacer. Des fois, il n'y a pas de service. Benjamin, c'est vraiment sa force, les horaires d'autobus, de transport, ce qui lui a permis de vivre sa vraie vie sans avoir besoin des transports de ses parents pendant ce mois-là.
Donc, c'est quand même un pas important vers une autonomie, peu importe qu'elle soit complète ou pas, au moins c'est déjà ça de fait, hein, c'est ça. Puis vous autres, ça vous rassure, j'imagine, les parents, de savoir que Benjamin est capable de se débrouiller?
Oui, il y a des choses qu'on a découvertes, par contre, qui nous ont amené un petit peu d'anxiété. Oui. Qu'il soit capable de se déplacer, de se débrouiller. Il y a eu sa première carte de crédit même pendant l'aventure, mais il y a des choses qui nous ont inquiétés un peu plus au niveau de la sécurité, par exemple. On a fait des tests avec des comédiens complices. Benjamin a facilement laissé rentrer quelqu'un dans son condo, un vendeur fictif. Mais le vendeur qui était joué par François Chénier aurait pu carrément passer là, la soirée avec Benjamin, puis Benjamin n'aurait rien dit. Fait que ça nous a apporté certains questionnements sur comment gérer ça, puis qu'est-ce qu'il lui reste à apprendre aussi. La gestion de l'argent, évidemment, ça a été difficile aussi. Fait que tu sais, ça reste que... Il y a des réponses positives, mais on a vu aussi beaucoup d'anxiété sur les caméras de surveillance qu'on avait installées dans le condo. Et moi, j'ai appris que je ne communique pas toujours bien avec mon fils. Puis ça aussi, ça lui amène de l'anxiété. Mmh. Ce qui fait que j'en ressors aussi grandi là, de cette expérience-là. Puis je pense que beaucoup de parents vont se reconnaître parce que des fois, on communique vite avec nos enfants ou nos jeunes. On pense qu'ils ont compris, mais c'est pas aussi clair qu'on le pense.
Mathieu et Benjamin, vous préparez un spectacle d'humour, si j'ai bien compris, un spectacle d'humour en duo pour 2027. Alors comment, parce que j'imagine que Mathieu, que t'écris pas mal là-dedans, comment on adapte notre écriture là, pour servir une personne différente? Donc, je vais utiliser ce terme-là, comme peut l'être Benjamin.
Bien, en fait, c'est le gros défi de ma vie, c'est de prouver que si on se donne la peine, n'importe quel milieu de travail peut accompagner et adapter pour réussir à intégrer une personne différente. Fait que mon défi va être d'écrire des choses que Benjamin peut apprendre facilement, de trouver des trucs pour le rendre confortable, parce que Benjamin adore être sur scène, c'est juste que l'apprentissage de plus de textes, ça va être un enjeu, mais c'est sûr que j'ai plein d'idées créatives pour réussir à créer un show complètement unique, un show d'humour. On commence à plancher là-dessus. Là. Tu sais, c'est sûr que je passe l'été à écrire ça, puis il y aura beaucoup de répétitions, puis beaucoup de tests pour arriver au bout de cette expérience, parce qu'encore là, ça va être une expérience, mais je veux prouver que si on se donne la peine, là, autant dans un milieu comme la télévision, comme Stat le fait si bien, intégré, accompagné, ben on peut le faire aussi dans d'autres domaines où Benjamin ou d'autres de ses semblables pourraient travailler, mais il ne faut pas leur demander l'impossible. Il faut les accompagner là-dedans. Fait que moi, ce que je vais faire sur scène, puis j'espère que les employeurs de d'autres domaines vont dire « Ah, ben crime, si lui, il l'a fait sur scène, on peut le faire dans notre boutique, dans notre usine. »
Il ne me reste pas beaucoup de temps. J'aimerais juste donner le dernier mot à Benjamin. Benjamin, qu'est-ce que t'aimes sur scène ou à la télé? Qu'est-ce que t'aimes de te retrouver devant un public?
Encore une fois.
Ah oui?
Ben, c'est des questions un peu abstraites pour Benjamin, tu sais, comme qu'est-ce que t'aimes, comment tu te sens? C'est des difficultés pour lui de répondre à ça, mais moi, je vais répondre rapidement. Il adore les applaudissements. Et quand ça rit, puis on décroche aussi, quand entre nous autres sur scène, on riait beaucoup avec Patricia Gislin dans le show des ex. Puis il y a cette complicité-là qui s'installe, Benjamin adore ça.
Bien, on va terminer ça là-dessus. Merci beaucoup tous les deux. Merci d'avoir participé à cette émission. Puis avec beau, grand succès pour votre spectacle d'humour en 2027.
Un gros merci.
Merci beaucoup. Ouais, des fois, ça explique. Hein, on a des limitations, nous autres aussi, comme animateurs de radio. J'ai peut-être pas réussi à poser les bonnes questions à Benjamin, mais merci à Mathieu d'avoir été là pour m'avoir soutenu là-dedans. Merci beaucoup. Merci à l'équipe Hélène Denis qui m'a aidé à la recherche aujourd'hui et Mathieu Tessier à la régie. Moi, je vous donne rendez-vous à 17h pour l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On va recevoir, entre autres, Philippe Besson et Charles Milliard. À tout de suite.